en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Michael Levinas est compositeur et concertiste. Un livre d'entretien paru en 2002 chez L'Harmattan, consacré à son itinéraire, le désignait sous le titre « Le compositeur trouvert ». Compositeur de renommée internationale, il a une haute idée de la musique et de l'instrument. Pianiste, concertiste exceptionnel, il est tout aussi capable de visiter l'intégralité du répertoire des sonates de Beethoven que d'écrire sur l'art musical. Fondateur de la musique spectrale, avec laquelle il a pris quelques distances aujourd'hui, créateur d'opéra, citons La Métamorphose, une création de 2011, élève d'Olivier Messiaen, le compositeur est le fils du philosophe Emmanuel Levinas, l'auteur de Totalité infinie, décédé en 1995, dont la référence à l'œuvre s'est imposée dans le domaine de l'éthique philosophique depuis les années 1990. Né en 1949, Michael Levinas fait son entrée sous la coupole de l'Institut de France le 15 juin 2011 pour son installation au sein de l'Académie des Beaux-Arts, où il a été élu le 28 mars 2009 dans la section Composition musicale au fauteuil de Jean-Louis Florins. Je vous invite aujourd'hui à découvrir le monde musical de Michael Levinas, pianiste, concertiste et compositeur, un double profil précieux qui lui permet une écriture musicale des plus originales, traversée de sons instrumentaux, électro-acoustiques, de bruits, de voix. Bonjour, Michael.
Bonjour.
Où vous êtes-vous formé ?
Écoutez, c'est très simple. Mes études ont été au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans un cursus assez large, à la fois, comme vous le dites, concertiste, instrumentiste, avec des maîtres auxquels j'ai eu beaucoup tenu, Vlado Perlmutter, Yvonne Lefébure, Yvonne Loriot, la femme d'Olivier Messiaen. Et de l'écriture, qui, en fin de compte, parce que je me destinais très tôt à tout de même poursuivre une vocation de compositeur. Donc c'est un double cursus, je vous l'avoue, très difficile à défendre dans les esprits pédagogiques de la vie musicale du conservatoire quand j'y étais, c'est-à-dire les années 60. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus simple. Mais c'était un acte, je dirais, presque de rébellion de ne pas pouvoir échapper à cette double vocation et de l'imposer dans le cursus de mes études. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et alors avec aussi, Ali, au début de mes études, deux très grandes rencontres avec des pianistes mythiques de l'école française. Madame Marguerite Long, très très âgée, je dois dire. Je ne suis pas si âgé qu'avoir été un élève de Madame Long. Et un autre très ancien professeur très mythique de l'école du Conservatoire de Paris qui était le pianiste et compositeur tout de même, Lazare Lévy.
Quand rencontrez-vous Olivier Messiaen ?
La rencontre avec Olivier Messiaen s'est faite en 1967-68. Alors bon, les auditeurs aujourd'hui auront du mal à s'y retrouver parce que même les études aujourd'hui du conservatoire ont tout de même beaucoup évolué par rapport à l'époque où j'ai été élève, étudiant. Et c'était à la sortie de ce qu'on appelle le prix. J'ai eu mon premier prix du Conservatoire de Paris de piano dans la classe d'Yvonne Lefébure, dans un lieu fabuleux qui était un lieu où Hector Berlioz a créé la symphonie fantastique et où les sonates de symphonie de Beethoven ont été dirigées par Ebenek. Je suis un des derniers lauréats du Conservatoire de Paris ayant eu son prix au Conservatoire national d'art dramatique dans cette salle exceptionnelle du 19e siècle. Et je cherchais à rentrer dans ce qu'on appelle le troisième cycle, qui est ce qu'on appelait le super conservatoire pour une préparation de carrière de soliste. Ça, c'était une invention d'un de mes prédécesseurs dont je vais occuper le fauteuil. C'est Raymond Galois-Montbrun qui avait créé cela. Le troisième cycle, ça a métamorphosé, je dirais, toute l'école française du piano. Et Olivier Messiaen venait d'être nommé professeur de composition très peu de temps avant. Et sa femme, Yvonne Loriot, a succédé à Yvonne Lefébure au conservatoire. Et à la fois pour des raisons organiques sur le plan musical et aussi pour des raisons, je dirais, alors de réunion de mes deux vocations, je suis rentré dans le troisième cycle de piano chez Yvonne Loriot et chez son mari en composition, Olivier Messiaen. Mais la rencontre avec Olivier Messiaen était quelque chose, je dirais, qui était inscrit presque dans mes gènes musicaux. C'est-à-dire que j'avais presque deviné la musique de Messiaen avant de la connaître. Donc c'est vraiment une rencontre qui date de ces époques-là, mais on pourrait dire qu'elle est antérieure.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a parfois, dans les sciences, il peut y avoir tout de même des pressentiments qui sont confortés ensuite par la démonstration. Et je crois qu'un scientifique parfois découvre par la recherche, mais parfois la recherche est guidée par une intuition. Et dans le domaine de la tradition musicale occidentale et celle dont j'étais issu, l'école française, il y avait quelque chose d'inscrit dans l'œuvre de Messiaen qui était, je dirais, conséquente de toute une évolution du XXe siècle dans le domaine harmonique, dans le domaine rythmique, un art de la couleur qu'on pourrait développer. J'en parle dans beaucoup, c'est quelque chose que je peux aujourd'hui comprendre d'une manière plus rigoureuse. Mais à l'époque, c'était véritablement un cheminement. J'avais presque improvisé dans le style de Messiaen avant de connaître sa musique, parce qu'elle était inscrite dans le devenir musical d'une spécificité française.
Que vous connaissiez déjà.
Que je connaissais par mes maîtres. J'ai un héritage français très important, tout de même, à travers des professeurs qu'il faudrait rappeler, même s'ils n'ont pas laissé d'œuvre au sens où on peut dire que c'est une œuvre qui devrait être obligatoirement interprétée, mais c'est une sublime tradition. La tradition harmonique française, à travers les maîtres du conservatoire, qui remontent à Gédalge, professeur de Maurice Ravel, Guiraud, la famille Gallon, et l'héritage avec un maître qui s'appelait Henri Chaland, qui m'a transmis, c'est un de mes plus grands maîtres du conservatoire, l'art de l'alchimie harmonique, qui est la tradition foréenne, la tradition ravelienne. C'est en France que s'est inventé le timbre, c'est en France que s'est inventé, on pourrait dire, dans les premiers studios électroniques, la découverte miraculeuse du timbre. C'est la tradition aussi des symphonistes organistes. Et c'est cette tradition que j'ai reçue.
Alors, qu'est-ce que vous en avez fait de cet héritage?
Qu'est-ce que j'en fais? Nous ne sommes même pas encore au passé composé, je l'espère. Eh bien, après, évidemment, les généalogies sont assez complexes. Il est certain que, si je disais en quelques mots comme ça, quelque chose de cette transmission. D'abord, c'est le fait de la transmission. Alors, la transmission, c'est une question qui s'est posée cruellement au XXe siècle, à travers toutes les terminologies de la modernité, c'est-à-dire modernité de rupture, modernité iconoclaste, et toute la question du modèle, bien sûr, s'est singulièrement posée. Et aller dans la classe de Messiaen, c'était bien sûr se trouver dans la clairière du XXe siècle, c'est-à-dire à la fois un créateur qui a pensé les catégories musicales antérieurement au classicisme et au romantisme du XIXe, avec la tradition du plein chant, une conscience effectivement extra-européenne du fait musical, ce qui est très vingtiémiste, qu'on peut trouver notamment dans les démarches d'ethnologie du XXe siècle, sans faire de grands discours, mais enfin cette sensibilité aux cultures, même de tradition orale, et la compréhension de l'intelligence de la tradition orale, on l'avait reçue chez Messiaen. Il y avait en même temps un cousinage très important avec la seconde école de Vienne, et il y avait bien sûr cette spécificité française de l'alchimie du timbre et du son, à la fois à travers cette sophistication harmonique et ce lieu. Et le mot lieu, je veux le dire ici, parce que le lieu, l'académie, c'est un lieu de culture qui garde une transmission. Eh bien, je dirais, c'est dans les lieux sacrés, la transmission par les symphonistes de l'orgue. Alors, dans ce contexte, évidemment, qui donc implique aussi bien la conscience rythmique que le timbre, il y a la notion de la magie du timbre. Et cette magie du timbre, elle est vécue par Messiaen, et ça, il l'a transmise en termes presque de miracle, hein, c'est-à-dire de considérer que dans l'œuvre musicale, il y a un moment bouleversant qui est une sorte de découverte. Et cette découverte illumine évidemment l'œuvre. Et cette notion-là, elle est très très précieuse parce que elle revit quelque chose de l'ordre de d'une sorte de fascination créative. Et je crois que c'était un des grands enseignements d'Olivier Messiaen. Et bien sûr, vous avez parlé de l'école spectrale, toute une génération qui s'est retrouvée là. Eh bien, bien sûr, le timbre, l'éblouissement harmonique du timbre, hein, ses conséquences qu'on ne peut pas expliciter là, mais ses conséquences, évidemment, je crois que Messiaen, dans cette grande bouleversement de la modernité du XXe siècle, c'est une transmission qu'il a faite à ses élèves. Vous voyez, la notion métaphysique de l'imaginaire, la conscience extra-européenne de l'intelligence des traditions orales, la notion du chant de la vie, et c'est ce que j'appelle un peu les chants d'oiseaux, c'est cela en quelque sorte, les catégories, je dirais, préclassiques qui conduisent à l'écriture, et l'inspiration, c'est-à-dire quelque chose qui vient de au-delà de moi-même. Eh bien, c'est un enseignement qui a été magistral.
Vous venez de nous parler de ce moment qui illumine l'œuvre. Vous avez toujours en mémoire ce moment précieux à révéler dans chacune de vos œuvres.
Écoutez, je l'ai en espoir. Je l'ai en espoir. Je ne réduis pas tout acte d'écriture à la recherche de l'éblouissement et de la bifurcation, bien sûr. Mais tout de même, à travers à la fois ma vie d'interprète et mon expérience de l'écriture, d'ailleurs vécue, je dois le dire, auprès d'un de mes ancêtres très proches, c'est-à-dire avoir vécu ce que c'est l'écriture, je parle de mon père bien sûr, ce que c'est l'écriture, ce que c'est l'impasse, ce que c'est l'éblouissement, ce qu'il appelait d'ailleurs les bifurcations, la bifure.
Ces trouvailles.
Vous avez employé le bon mot, trouvailles, absolument. Absolument, trouvailles, trouver. Le mot trouver, c'est trouver, disait-on chez des créateurs dans les années 30. Je l'ai encore entendu d'Henri Dutilleux un jour, c'est trouver. C'est un terme tout à fait extraordinaire qu'on utilise très peu aujourd'hui. Et bien sûr, c'est des expériences presque parfois surréalistes, d'ailleurs, dans le sens littéral du surréalisme, quelque chose qui vous échappe, mais en même temps, quelque chose qu'on a tout à me chercher. C'est faux de dire « je trouve, je ne cherche pas ». Ça arrive de temps en temps, mais parfois il faut chercher pour trouver. Et parfois, trouver, c'est ne pas trouver. Par conséquent, ces situations, je dirais, un peu dialectiques de l'acte de création, y compris toute cette expérience vingtiémiste de la relation entre le système et l'écrit et la créativité, c'est ce faisceau de contradictions très complexes, tout de même qui sont ceux qui occupent une partie de ma vie, aussi bien en tant qu'interprète que compositeur.
Comment le public, on va dire le grand public, reçoit l'histoire de ces transmissions, ces ouvertures en fait de la musique ?
Vous me poussez à aborder une question qui me paraît assez cruciale, effectivement. Je ne sais pas si la question se serait posée de la même manière, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Bien sûr, j'essaie de ne pas avoir sur mon travail le poids d'un adjectif, hein, qui pourtant d'ailleurs est un adjectif qui est revendiqué par beaucoup de compositeurs parmi les plus grands et qui ont fait d'ailleurs des œuvres tout à fait exceptionnelles. Le mot musique contemporaine. Hein, le mot musique contemporaine. Alors, le mot musique contemporaine, C'est une question, si vous voulez, dans l'écriture exigeante. L'écriture exigeante est quelque chose, bien sûr, qui peut créer, en tout cas, une difficulté à être lu ou entendu. Et sans doute, l'écriture, si elle n'est plus exigeante, elle peut avoir une autre fonction. J'ai tout de même eu dans mon entourage proche, je pense, me vient quand j'entends le mot écriture exigeante, plutôt que le mot musique contemporaine, me viendrait le nom de Maurice Blanchot, par exemple. Mais le mot musique contemporaine, évidemment, c'est un projet sublime, auquel d'ailleurs se référaient bien sûr Olivier Messiaen ou Yannis Xenakis, pour créer cette possibilité de se projeter. De se projeter, j'emploie le mot pronominal « se projeter », c'est-à-dire je supplante le mot « avant-garde » par le mot « se projeter ». Bien que le mot « avant-garde » et « se projeter » impliquent tous les deux une notion de risque et éventuellement de sacrifice. Et à travers cela, bien sûr, je me suis posé la question, parce que se projeter, être en avance, implique un credo dans une sorte de historicité de l'acte de création et un sens de l'histoire très vingtiémiste, ayant créé des chefs-d'œuvre comme Métastasis, Pitopracta, Chronochromie de Messiaen, mais déjà Jean-Louis Florence avait supplanté cette notion de contemporanéité par notion de musique sacrée. Et me semble-t-il que la question de la destination du message sonore, pour parler que de ce qui est à ma disposition, bien sûr, a été de manière très circonstancielle liée à cette totale liberté artistique, cette personnalisation de l'acte de création, son identification, et éventuellement son rôle avant-gardiste. Et ce n'était pas le cas au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Il y a eu des innocents, c'est le cas de dire. Il y a eu des anonymes, j'appelle ça des innocents. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, où nous parlons là ici, à l'Académie, nous sommes dans un monde où il y a une tension si forte que le message culturel, parfois, peut devenir, je ne dirais pas indécent, mais inconscient. Et d'autre part, en tant qu'interprète, alors d'une manière totalement vécue, je toujours imaginais d'entendre la musique que j'écris, le son que je projette, accessible, je ne dirais pas accessible, mais entendu tout de même par les autres, entendu par les autres dans une relation sensitive, dans une relation émotionnelle. Bien sûr, donc le mot « musique contemporaine » ne peut pas faire l'abstraction de musique actuelle, ne peut pas faire l'abstraction des relations avec la langue et avec le sens, et avec le média, je parle des haut-parleurs, la diffusion, les modes de communication, sans faire de démagogie, mais enfin ce sont, y compris d'ailleurs éventuellement une profanation aussi de l'acte de création, d'où la nécessité de bien préciser la mission sacrée de l'acte de l'écriture. C'est là que je voudrais rendre hommage à Jean-Louis Florence que j'ai rencontré chez Olivier Messiaen. Et donc, je préférerais parfois remplacer le mot avant-gardiste pour le créateur, je ne parle pas à la première personne, par une sorte d'intuition prophétique. C'est-à-dire que le prophète éventuellement peut se sacrifier, mais le prophète peut-être entend avant les autres, mais il entend pour les autres.
Vous venez d'entendre de Michael Levinas le morceau « Appel ». Vous avez parlé dans votre intervention, là, à l'instant, vous avez évoqué la musique et le
Alors,
son.
Dans le courant, je suis effectivement lié historiquement au courant spectral. J'ai travaillé au GRM, tout d'abord, autour de Pierre Schaeffer, qui était déjà un peu éloigné, mais enfin, disons que une émancipation pour moi de l'imaginaire est venue par l'électroacoustique, par le miracle du son. Y revenons à ce que nous disions tout à l'heure sur le timbre. Donc, il y a quelque chose de magique, quelque chose de théâtral d'ailleurs dans le son. Je dirais presque quelque chose de piranésien, un trompe-l'oreille dans le traitement du son par l'électronique. Donc, pour moi, le son et le travail par l'électronique n'est pas purement une analyse de type physique du son, mais c'est une sorte de métamorphose aussi d'un timbre, métamorphose, surprise, bouleversement, émerveillement, clé du merveilleux. Et dans ce sens-là, j'ai fondé, dans l'héritage de la classe de Messiaen, avec mes co-disciples, notamment Gérard Griset, qui est mort, mais qui était un très grand co-disciple, avec qui j'ai suivi d'ailleurs un très extraordinaire séminaire de Stockhausen et Ligeti, envoyés tous les deux par Messiaen à Darmstadt en 72.
Ligeti qui était aussi ici à l'Académie.
Voilà, et qui était lié au courant spectral, et qui était un des grands initiateurs tout de même de cette sensibilité. Donc, nous avons fondé l'itinéraire qui était, je crois, malgré tout, un des grands, grands ensembles et surtout des grands lieux de réflexion, je dirais, mais surtout aussi d'œuvres. Et surtout, très important, dans le monde de la modernité de la fin du XXe siècle, une possibilité post-sérielle, quelque chose qui est hors de la tradition conceptuelle ou abstraite, un peu comme pouvait l'être le nouveau roman dans le domaine littéraire ou certaines formes abstraites dans les arts plastiques qui avaient totalement cassé la relation avec la figuration et la transmutation du réel. Eh bien, nous avons été capables, je dois dire, je parle au collectif, de renouer avec l'harmonieux, de perforer à nouveau les lois du son, de la même manière que Seurat avait avec Chevreul, à la fin du XIXe siècle, conceptualisé les lois de la lumière dans la couleur. Et donc, bien sûr, ce courant spectral a donné naissance à diverses œuvres, quelques-unes que j'ai écrites, des œuvres de Griset, et surtout une constellation internationale. Et je crois
mondial.
Que oui, je crois que c'est un fait majeur tout de même. C'est quelque chose qui a, d'une certaine manière, permis de changer un peu le cours de cette contemporanéité et qui permet finalement ce que je peux vous dire aujourd'hui, cette notion de la limite de l'avant-garde. Et donc, évidemment, dans une conférence à Darmstadt en 82, nous sommes retrouvés tout le groupe itinéraire pour faire un bilan. Et j'ai senti très très vite qu'il y avait dans le timbre, il y avait une différence entre la notion du timbre et du son et du musical. Il y avait la métaphore du timbre, il y a la relation avec la textualité, la question de la transmission par le signe, il y a la question du geste instrumental, il y a la catégorie instrumentale elle-même, c'est-à-dire le fait qu'un son émis par un visage, par un corps, qui est l'émanation de la respiration, du chant, de l'expressivité, il y avait un au-delà du son. Voilà.
C'est votre terrain d'exploration, cet
c'est
au-delà du son.
C'est quelque chose auquel je ne peux pas échapper.
Retrouvons Michael Levinas interprétant Beethoven au piano. Michael Levinas, vous avez été l'un des premiers à interpréter l'intégralité des sonates de Beethoven. Au-delà de la performance technique, qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre rapport à l'instrument et dans votre travail de composition ?
L'instrument, je suis un digital, je suis un manuel. Je veux peut-être vous amuser, enfin j'espère. Vous savez, j'avais un père qui n'était pas tout jeune et qui avait vécu la révolution bolchevique. Et dans ma formation musicale, j'avais une mère toute grande, grande musicienne qui avait été formée à Vienne avec Isserlis et Sirota. Et donc j'ai entendu la musique de Beethoven et la musique de Schumann. Bon, c'est ce qu'on appelle la tradition d'Europe centrale, les références du 19e siècle. Bon, ça fait partie de ma culture de base, je ne regrette pas d'ailleurs. Je vous dirai quelques mots sur Beethoven précisément. Mais mon père me disait, tu sais, c'est très bien, l'avenir est au manuel. Et d'ailleurs, je crois à une seule chose, c'est quand les doigts fonctionnent. Or, je suis improvisateur de la toute petite enfance. C'est-à-dire que ma première relation a été à la fois l'instrument, le piano, mais en même temps l'improvisation au piano, la composition sortant des doigts, avant d'être écrite. En ce sens-là, je suis très sensible aux musiciens de tradition orale. Alors, Beethoven, oui, bien sûr, Beethoven, le dialogue, enfin pas le dialogue, disons là, ce que je, avec le texte, on va dire. Le dialogue avec le texte, il est lié dans un premier temps à la question du bouleversement de l'idée musicale. C'est-à-dire ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a marqué comme compositeur, ce qui m'a marqué comme interprète quand j'ai fait l'intégrale des sonates de Beethoven n'est pas tout à fait ce qui est aujourd'hui ma relation quand je joue du Beethoven. Parce qu'entre-temps, j'ai même eu une classe au conservatoire et j'ai eu un regard plus 18e sur Beethoven que celui que j'ai eu en tant qu'enfant des années 50. Ce qui m'a bouleversé est très en relation avec ce qui se passait dans la pièce quand je voyais écrire mon père et déchirer et découvrir. Ce qui m'a bouleversé, c'est la manière dont, dans un processus classique, prévisible, se passe un moment donné où il y a une rencontre avec l'impasse du prévisible et du système, et le coup de théâtre, le coup de théâtre dans l'écriture qui bouleverse les données. Et j'appelle ça, pour que les auditeurs le saisissent, j'appelle ça l'esprit d'Arcole. Alors l'esprit d'Arcole, c'est quand Napoléon, dans le film de Lang, arrive et trouve trois généraux endormis de la monarchie, ne sachant pas comment inventer une stratégie. Il frappe avec l'épée, il a une vision géniale au sens romantique du terme, et il découvre comment détourner l'impasse, et il y a un bouleversement stratégique. Et le bouleversement stratégique, l'esprit d'Arcole chez Beethoven, est évidemment quelque chose qui a marqué mon rythme de l'écriture. Je ne me suis jamais pris pour Napoléon, mais disons que cet esprit, au fond, révolutionnaire de l'art, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du bouleversement, on revient au XXe siècle, bien sûr, a été quelque chose. Alors, bien sûr, j'ai du coup fait un colloque, d'ailleurs, avec encore mon père dans la salle à la Sorbonne et le Collège international de philosophie qui s'appelait « De la rature et l'accident ». Et c'était sur la notion de la relation entre l'écriture et le bouleversement de l'esprit d'Arcole. Et bien sûr, l'autre point aussi chez Beethoven qui m'a amené à faire cette intégrale a été le timbre du piano, c'est-à-dire ce que j'appelle le piano-espace, c'est-à-dire un instrument qui, alors c'est peut-être faux historiquement et peut-être vrai, a repris les termes de l'acoustique des lieux sacrés du XVIIIe siècle dans les salles de concert du XIXe, une amplification de la résonance qui a influencé tout le XIXe siècle et notamment l'espace wagnérien de l'opéra. Et cette acoustique du piano, alors là, Beethoven est un compositeur moderne au sens vingtiémiste du terme, c'est quelqu'un qui conçoit son écriture en même temps que le timbre et qui, comme aujourd'hui on travaille avec l'informatique ou l'électronique, travaille à concevoir l'évolution, j'en dis bien l'évolution, du timbre de l'instrument et l'évolution de l'écriture en fonction de la perception et de l'analyse de ce timbre. C'est donc une perception évidemment très spectrale dont je vous parle, mais mon interprétation Beethoven de l'intégrale a été très marqué par cet esprit-là, la pédale, la résonance. Or après, alors bien entendu, je dirais ma seconde période, aujourd'hui, c'est-à-dire donc, déjà quelqu'un qui n'est plus jeune, bien sûr, c'était la rencontre avec le XVIIIe siècle, alors pas par la mode musicologique, mais encore une fois par le timbre, c'est-à-dire la relativisation de l'instrument moderne sur lequel j'ai étudié, et notamment donc de redécouvrir une autre écoute, mais je crois que Beethoven est tout de même quelqu'un de l'écoute, mais bien sûr, les articulations beaucoup plus, je dirais, transversales des formes sonate, fantaisie, opéra, dans l'héritage du XVIIIe siècle, qui ont généré des modernités qui ont été considérées au XXe siècle comme des préfigurations où un créateur se projette. Or, il y a chez le compositeur Beethoven, et là, vous pouvez entendre ma préoccupation, moi qui traversais tout de même le 19e, 20e au 21e siècle, il y a tout de même là une ambivalence très riche que je n'ai pas perçu au moment où j'ai fait l'intégrale des sonates de Beethoven.
Sur quel compositeur vous aimeriez travailler au niveau des concerts, j'allais dire, enfin, alors, en tant qu'interprète?
Bien sûr, j'ai enregistré et je développe, notamment en relation avec Pierre Antaille et avec des musiciens qui s'intéressent aux lutheries du 18e et du 19e siècle, j'ai enregistré l'intégrale du clavier bien tempéré de Bach. Et je l'ai enregistré pour une raison assez précise, c'est qu'en travaillant sur les œuvres de Messiaen, et en me dégageant, je dirais, d'une sorte d'emprise trop spectrale du timbre, j'ai découvert chez Messiaen ce que je recherchais, c'est la complexité de la relation entre le polyphonique et l'harmonique. Et l'autre question, bien sûr, traversant le XXe siècle et le timbre, la découverte de cette angoisse de la non-transmission du signe, c'est-à-dire le timbre dont nous avons parlé, comment l'écrire, comment le transmettre? Et dans un lieu comme l'Académie, c'est vraiment une question centrale. Je suis accepté dans un lieu qui est un lieu de la transmission et je vis en même temps cette interrogation sur la transmission. Et Bach a écrit avec des invariants. C'est-à-dire, vous vous rendez compte? Des hauteurs, une organisation formelle qui peut être identique sur un clavecin, sur un orgue, sur un piano, ou éventuellement sur une autre interface, parce qu'on peut déchiffrer les timbres et les traduire en hauteur. Et ça explique notamment mon travail sur les études de Ligeti et éventuellement sur la manière dont aujourd'hui je peux renouveler mon répertoire de pianiste et la raison pour laquelle je continue une carrière de pianiste.
Qui allez-vous jouer?
Alors, par exemple, la question est évidemment de savoir quel sens a un programme de concert.
Parce que là, quand vous attaquez à Bach, c'est
je ne m'attaque pas, je me soumets et je lis. Je essaye aussi de dire au public.
C'est un sens pour vous.
C'est très important. Évidemment, il y a des textes extraordinaires de Gide qui prétend que Chopin préférait parfois la lecture comme dans les Écritures saintes, parfois à l'oraison, ou citant Baudelaire, il faut parler à mi-voix pour ne pas violer le texte. Non, le texte, je veux le dire. Je suis compositeur et interprète. Mais un de mes grands projets l'année prochaine, c'est une rencontre qui va avoir lieu au couvent des Bernardins, à Paris, dans le 5e, avec Pierre Antaille, Planèse et un très jeune ensemble Balcon, sur la question de la pérennité du clavier et sur la manière dont des œuvres de Bach, le clavier bien tempéré, certaines sonates de Beethoven, peuvent survivre ou au contraire revivre par le respect des hauteurs, la transmission étrange du clavier, c'est-à-dire c'est toi-même une chose étrange dans le lieu de la transmission ici, de dire qu'il y a une transmission si ancienne que le clavier est resté le même depuis le Xe siècle jusqu'à un clavier électronique aujourd'hui. Et donc, c'est un de mes grands soucis, à travers la virtuosité et les modifications du timbre par la virtuosité, tout de même ce mystère de ce que j'appelle l'invariant.
Nous avons parlé de clavier, Michael Levinas, mais vous composez également, et bien entendu, pour tous les instruments et tous les sons. Alors, comment se pose pour vous la question de l'articulation de la polyphonie et du timbre ?
J'ai tout de même, effectivement, dans cette question de la polyphonie et du timbre, j'ai écrit 3 quatuors, dont notamment et un quintet à cordes, et un quintet à cordes qui ça s'appelle « Lettres enlacées ». Et d'ailleurs, c'est le préfiguration de l'ouverture des nègres. Dans cette écriture des cordes, les cordes, évidemment, sont des lieux de transmission de la tradition polyphonique, quatuors étant tout de même. Il y a le livre du quatuor, il y a toute la tradition du 19e, Bartok. C'est une formation qui a tout de même une tradition en relation avec la sonate en trio, notamment. Et donc, bien sûr, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des polyphonies paradoxales, qui viennent des recherches de Risset sur les polyphonies paradoxales et les échelles des chairs. C'est des choses qui ont préoccupé également Ligeti dans l'Escalier du Diable. Et donc, les lignes polyphoniques obéissent à des échelles. Bon, ça va être un peu abstrait peut-être pour les auditeurs, mais la gamme est une échelle. Il y a d'autres gammes que la gamme tonale, et ces gammes-là peuvent se multiplier, exactement comme si vous voyiez un tableau des chairs, un dessin des chairs. Vous avez plusieurs lignes avec des techniques polyphoniques du dessin qui créent un trouble identitaire sur les mouvements de ce qui monte et ce qui descend. Et alors, temporellement, c'est fondamental parce que la notion de l'ambivalence sur la directionnalité d'une ligne, évidemment, est un travail sur le temps et sur la forme. Le temps et la forme, c'est une question centrale. Et là-dessus, les cordes ont été pour moi un lieu d'exploration très central que j'ai ensuite développé dans l'opéra.
Comment êtes-vous venu à la composition d'opéra ? Après la musique spectrale, comment êtes-vous venu à cette composition d'opéra ?
J'ai, dans les années 80-82, écrit des pièces qui avaient, je n'aime pas dire le mot argument, mais on a évoqué, je crois, la question de l'au-delà du son. Effectivement, sans en remonter à mon enfance, quand j'ai pu débloquer, je me souviens, l'imaginaire, rentrant à la classe d'Olivier Messiaen, le texte est arrivé à l'intérieur de la composition musicale, c'est-à-dire une pièce pour cordes que je n'arrivais pas, à laquelle je n'arrivais pas à donner un sens, est arrivé à un moment donné où ma voix a été enregistrée, disait répétition d'orchestre, Sémiramis et son mari se sont jetés à l'eau, l'orateur muet, signe des autographes. C'est la fin des chaises de Ionesco. Et je n'ai pas d'ailleurs très bien compris pourquoi, à ce moment-là, ça a pris sens. Et ensuite, dans une toute première pièce pour flûte basse, la respiration humaine, hein, qui était partie de la toux, j'avais enregistré la toux, et la toux s'est transformée en respiration, elle a généré le mélodique. Ça s'appelle Arcis et Thésis ou la chanson du souffle. Et les pièces des années 80-78 ont eu une relation tout de même avec un au-delà du son, Cloveam, qui était tiré plus ou moins de fin de partie de Beckett, mais je n'avais pas lu fin de partie. Ouverture pour une fête étrange, où il y avait tout de même le signe d'une action, mais qui n'était pas une action, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de personnage mythique, c'était des allégories, un peu comme la symphonie fantastique, enfin, j'en comparais, mais voilà. Ou bien encore, voix dans un vaisseau d'airain, chant dans l'escalier, qui était une voix d'une femme dans une cage d'escalier qui hurle, un scandale. Et dans la résonance, mais en même temps, là, c'est certain qu'il n'y avait pas une action, mais il y avait une théâtralité. Et à l'époque, je me souviens, je disais, c'est un peu empirique et un peu impérieux, toute musique tend vers la théâtralité. Bon, je crois que c'est tout de même un peu naïf de dire cela, mais il y avait tout de même cette pulsion-là musicale. Et je dirais qu'après, c'est un déchiffrage d'une orientation musicale, un déchiffrage où finalement... Alors, pour résumer, mais on pourrait dire...
Vous ne oui. partiez pas de texte, hein, puisque vous avez...
Absolument pas.
D'accord.
Absolument pas. Mais je suis parti tout de même d'un effort théorique que j'ai pu faire dans la conférence de Darmstadt avec le groupe de l'itinéraire, où j'ai montré tout de même qu'il y avait, dans la tradition des traités d'orchestration du XIXe siècle, des allégories. Par exemple, Berlioz évoque pour la clarinette une sublime apparition... dans Oberon, c'est-à-dire, ou bien le basson qui glousse, même Rimsky-Korsakov, il y a toujours... L'instrumental est toujours en relation avec une allégorie ou une métaphore. Ou bien, chez Debussy, le mouvement de la mer, si vous voulez, il y a quelque chose... Alors, la mer, bien sûr, c'est l'abstraction des structures, je ne vais pas me développer ici le thème de l'illustration sonore, mais enfin, cette notion qu'il y a une corporalité... que le son est métaphorique aussi, que le son est allégorique, progressivement est devenue une intuition sur la relation entre le son et le sens. Et éventuellement, la question de la transmutation du texte par le chant ou la transmutation du mythe par le chant et la musique. Et d'autre part, la question de la formalisation musicale en relation avec la narrativité. Ce qui est tout de même un héritage assez troublant sur lequel il est difficile d'échapper à un moment donné. Donc c'est un long cheminement à travers à la fois cette espèce de transmutation du réel, transmutation du texte, mais la sensation alors qu'il y a une relation, plusieurs relations, différentes relations, mais que il y a quelque chose qui n'est pas totalement disjoint entre la théâtralité, le mythe, la textualité, la forme musicale et le son et le sens.
Comment vous est venue l'idée d'écrire justement cet opéra Les Nègres sur des textes de Jean Genet en 2003 ?
Alors, croire, découvrir qu'un texte est peut-être un livret d'opéra, ce n'est pas aller chercher un livret d'opéra. C'est-à-dire, je veux faire un opéra, mais quel va être le livret ? C'est un travail de sourcier. C'est-à-dire que vous êtes dans un texte, et parfois, moi, je ne lis pas les textes dans lesquels je vais faire un opéra. C'est très étrange. Il y a de l'opéra dans quelque chose. Je vis près du Parc des Princes une partie du temps, et le jour où il y a un match, avant qu'il y ait le match, il y a déjà du match. Je me souviens aussi à Évian, près de la source, d'un sourcier qui marchait sur le chemin avec des aiguilles dans la terre pour entendre la vibration. Alors, dans Les Nègres, il y avait de l'opéra. Il y avait de l'opéra, la première page des Nègres. Mesdames, messieurs, je me nomme Archibald Wellington, rire orchestré. Ces deux phrases, il y avait de l'opéra là-dedans. Dans La Métamorphose, la question, l'histoire de la métamorphose est un peu plus élaborée, mais sans pour autant, dans un premier temps, que j'ai vraiment travaillé le texte au préalable. Après, c'est assez étrange, le travail avec un texte et musique, c'est un peu comme un travail du chirurgien au XIXe siècle. J'opère sur le terrain. C'est à l'intérieur du travail, il y a de l'adaptation et souvent ça se fait, je dirais, à cœur ouvert et avec des amputations qui ne ménagent pas la douleur.
Écoutons un extrait de l'opéra de Michael Levinas, Les Nègres d'après Jean Genet. Michael Levinas, vous êtes installé sous la coupole le 15 juin 2011 au sein de l'Académie des Beaux-Arts, dans la section composition musicale. Pour nos auditeurs, vous allez succéder, vous succédez à Jean-Louis Florins. Pour vous situer aujourd'hui, dans quelle filiation extra ou hors académique vous vous situeriez ?
Les filiations sont extrêmement nombreuses pour tous. Extrêmement nombreuses, elles sont, c'est comme un génome. Si vous voulez, quand je prends une partition d'un compositeur, j'ai l'impression d'être généticien. C'est-à-dire que le nombre d'hérédités qu'il y a dans un génome sont terrifiantes et elles sont à part contradictoires. Alors, ce que je dirais aujourd'hui, j'ai, et ce n'est pas de circonstance, la rencontre avec Messiaen est une rencontre quotidienne. C'est-à-dire, j'ai toujours eu du mal à déjeuner avec M. Bergotte, si vous voulez. C'est-à-dire, vous savez, cette phrase extraordinaire de Proust disant que le texte, finalement, au fond, se substitue à l'homme. J'ai beaucoup eu d'admiration pour Messiaen et il m'a marqué énormément. Mais l'œuvre est encore plus forte. Et bien sûr, tout ce qu'on vient d'évoquer sur la polyphonie, sur le timbre, sur la transmission, sur la question de la relation entre l'avant-garde, le pressentiment, la prophétie, l'héritage, qui sont des questions centrales aujourd'hui, et notamment la sensation, l'énorme vertige de l'infini humain, que je n'appellerais pas mondialisation, c'est un terme très, moi je dirais l'infini humain et le caractère unique de l'être humain, si vous voulez, c'est-à-dire tout être humain est unique. Et en ce sens-là, c'est encore un terme, je dirais, un peu théologique, mais je le vis comme ça, cette relation à l'autre. Eh bien, où je vous ferai une carte de génome, où je ferai référence donc à deux très grandes rencontres dont la présence ici, pour moi, est toujours là,
Parce que Xenakis était aussi à l'Académie.
Oui, mais ma réponse n'est pas du tout académique.
Oui, je vois,
ma
c'est bien.
Ma réponse n'est pas académique.
Non, mais
je
ne
peux pas la développer, là.
Non, mais j'ai entendu.
Elle n'est pas du tout académique. Enfin, bon, académique, pour moi, ne signifie pas... C'est une phrase extraordinaire de Lévi-Strauss sur la nécessité des sociétés de créer le rite et la transmission. C'est une extraordinaire vidéo que j'ai vue sur Lévi-Strauss achetant sa tenue d'académie. J'ai trouvé ça magnifique comme notion pour un homme qui a compris l'intelligence des traditions orales. Mais l'expérience de Xenakis, elle a modifié absolument la perception du timbre et elle a notamment amené quelque chose de très particulier. Et que Messiaen a su ménager chez Xenakis et chez la plupart de ses élèves, c'est de laisser un créateur découvrir dans les corps sonores la migration des âmes. C'est-à-dire que le fait d'avoir compris qu'un artiste qui n'avait pas suivi les formes traditionnelles du conservatoire avait entendu du musical là où les autres ne l'avaient pas entendu et qu'il y a découvert des forces telluriques qui ensuite ont été articulées musicalement, c'est une expérience de la modernité du XXe siècle qui est valable pour notre siècle, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai fait cette réponse. Sinon, je peux vous dire que mes filiations sont énormes et ma solitude considérable. Et dans cette solitude, c'est vrai que me retrouver à travers une présence de créateurs qui gardent la tradition a quelque chose de très confortant et qui m'honore.
Est-ce que vous pourriez, pour terminer, nous décrire ou nous dépeindre un peu votre épée d'académicien ?
J'ai confié l'épée à Maki Xenakis.
Précisons pour les auditeurs qu'il s'agit de la fille de Xenakis.
Et bien sûr, je lui ai demandé une liberté de création totale. Elle a tenu, et je l'ai respectée, elle a tenu à ce que cette épée ait dans le fourreau deux têtes qui, pour elle, représenter une paternité. Alors écoutez, je n'ose pas faire cette comparaison entre Emmanuel Lévinas et Yannis Xenakis. Mon père a énormément admiré Xenakis et notamment tout son thème sur le violoncelle qui violoncellise dans Nomos Alpha qu'il a repris dans Autrement qu'être vient de l'admiration pour Xenakis. Donc ces deux têtes ne sont peut-être pas là par hasard, bien entendu. Mais alors, dans cette épée, il y a une devise qui se dit « Lotirtsar ». Et Lotirtsar, c'est une phrase des 10 commandements en hébreu qui veut dire tu ne tueras point.
Et la lame, le fourreau
Le fourreau est une étoffe bleue sur laquelle est marquée, brodée en hébreu, cette base de notre culture judéo-chrétienne.
Une épée très identitaire, j'allais dire.
Non, une épée très communautaire pour nous tous.
Merci, Michael Lévinas. Écoutons un extrait de l'opéra de Michael Lévinas, La Métamorphose d'après Kafka.
En cavale, en mouton, en blatte, en hanneton.